Bonjour à tous. Je me faisais la réflexion, tout, juste avant de me lever de mon siège, si vous aviez la même impatience d'entendre la parole de Dieu que nous en avons eue mardi soir, en ouvrant les cadeaux qui nous étaient destinés pendant Noël ou mercredi matin au réveil. Je sais pas. Elle me disait, cette joie, elle est belle à voir dans les yeux des enfants. On est toujours étonné par la quantité de cadeaux qui sont sous le sapin. On dit, on va faire light, un cadeau pour enfants. Puis finalement, il y a toujours un amoncellement de cadeaux. Alors, est-ce qu'on a la même joie et la même attente devant la parole de Dieu? Et du coup, je me suis dit, tiens, on est dans la semaine de Noël, je vais rester dans la thématique de la naissance de Christ et du Sauveur. Je sais que d'habitude, on ne tient pas trop compte ici des fêtes calendaires, mais ça me semblait important de continuer dans cet esprit-là. Et l'évangile qui est considéré comme l'évangile, je dirais, de la naissance de Christ, c'est l'évangile de Luc. Il y a beaucoup de détails, très étrangement, dans un évangile écrit par quelqu'un qui n'a pas été témoin de ces choses, de ces événements, mais qui a fait un travail quasiment de journaliste pour recueillir tous les événements auprès des témoins oculaires, dit-il, qui ont assisté à la naissance de Christ. Alors, j'aimerais reprendre le début de l'évangile de Luc concernant la naissance et la venue de... Il y en a qui suivent. De Jean-Baptiste, celui qui a précédé la naissance de Christ. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui... dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ainsi commence l'évangile de Luc. Alors, ce préambule, on peut se dire, faut le sauter, puisqu'on veut parler de la naissance de Christ. J'invite chaque lecteur de l'évangile à ne pas écarter des paroles qui nous semblent hors propos, qui nous paraissent un petit peu des paroles d'introduction inutiles, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là que ce sont des paroles qui sont importantes et qui nous disent des choses. Dans son préambule, l'évangéliste Luc, qui est un disciple de l'apôtre Paul, il précise effectivement qu'il n'a pas suivi Jésus, qu'il n'a pas été témoin direct de ce que Jésus a fait. Néanmoins, c'est un médecin. Il est crédible, n'est-ce pas? Il y a au moins une personne qui est d'accord avec moi. C'est un médecin et à ce titre, il est désireux de présenter la bonne nouvelle de l'évangile avec la rigueur qui s'attache à son métier. Il est rigoureux. Il dit, voilà, moi je vais vous expliquer, vous dire les choses. Je vais pas broder, mais je vais être rigoureux et je vais le faire avec précision. Il va développer auprès des vrais témoins, des proches de Jésus, y compris de sa mère, les détails qui entourent la vie et le ministère de Jésus-Christ. Moi, j'aime bien que Luc commence par dire, ben voilà, il m'a semblé bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer. J'aime que ceux qui veulent transmettre le message de la bonne nouvelle le fassent avec rigueur et exactitude, en séparant, j'ai envie de dire, les émotions et les sentiments et les ressentis, moi je pense que, il me semble que, etc. Voilà ce qui s'est passé, de manière très exacte. Et lorsque l'on me dit aujourd'hui que la foi et la croissance de l'Église reposent sur les expériences et ce qu'on ressent et ce qu'on vit avec Dieu, je m'insurge en faux et je dis, soyons des transmetteurs et des communicants de ce que nous lisons dans l'Écriture, de ce qui nous a été transmis, de ce que nous recevons comme parole certaine. Méfions-nous Et je le fais d'autant plus cette semaine que le hasard a fait que sur ma route, plusieurs sont venus vers moi d'assez loin pour me poser des questions sur justement la place du ressenti et de l'expérience dans la foi et dans la vie de l'Église. L'expérience est belle. Elle me concerne. Elle n'est pas vérité absolue. C'est le chemin par lequel Dieu m'a fait passer dans ma personnalité, avec mes blocages, avec mes fragilités, etc., pour me rencontrer. Ce n'est pas pour autant une vérité pour tous ceux qui sont autour de moi. Par contre, la parole de Dieu, c'est la norme, c'est ce qui me dit qui est Dieu et ce qu'il veut faire dans la vie de tous ceux qu'il connaissent. Et ce que j'aime dans l'évangile de Luc, c'est cette rigueur qu'il a en disant, voilà, j'ai voulu faire un récit des événements qui sont accomplis, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été témoins. Il m'a paru bon. Ça signifie qu'il trouve nécessaire de compléter par des sources, c'est ce qu'on dit dans les journaux télévisés, par des sources autorisées. Vous avez déjà entendu cette formule ? Nous avons entendu, ou on nous a dit par des sources autorisées que, eh bien, je dirais que quelque part, l'évangéliste Luc dit, ben voilà, il m'a paru bon, il est nécessaire de compléter aussi les sources autorisées par des éléments nouveaux que j'ai collectés. Quand il dit « à moi aussi », il m'a semblé bon à moi aussi. Ça signifie il signifie que d'autres auteurs, Marc, on pense que Marc, c'est le premier évangile qui a été écrit aux environs de 63-68, après Jésus-Christ, ou l'an zéro, qui semble être l'année de la venue. Hein. C'est vraiment une date indicative, c'est pas la date réelle. Matthieu, c'est entre 50 et 80, et Jean, entre 75 et 90. Et quand Luc dit « Il m'a paru bon », ce n'est pas bon pour lui, mais pour celui à qui il s'adresse, Théophile. D'abord, les autres lecteurs, ensuite. Est-ce que vous avez le pédigré de Théophile ? Qui peut me dresser un peu le portrait de Théophile ? Enfin, quand même, un homme auquel est adressé un évangile sur quatre. Non ? Quelqu'un a une idée ? Un quoi ? Un juge ? Non. En fait, cherchez pas, il n'y en a pas. C'est la seule mention de Théophile dans le Nouveau Testament. Alors, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que l'évangéliste Luc dédie son évangile ? Mais il fait comme, on le verra aussi dans l'Église catholique plus tard, pour se protéger, on se met toujours sous le couvert d'une autorité qui va un petit peu, je dirais, nous protéger des effets éventuels de la transmission de l'écrit que l'on fait. C'était les imprimatures dans l'Église catholique des siècles qui ont suivi. On dédiait cela à un évêque, à un pape, etc. Là, il y avait une autorité, Théophile, on ne sait pas ce qu'il aime, en tout cas, c'est quelqu'un dont il est dit... par Luc, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc c'est quelqu'un qui a reçu un enseignement concernant Jésus-Christ. Et que cet enseignement, j'irais quelque part, Luc souhaite aussi que ça lui serve, au travers de l'évangile, à étayer, à fonder sa foi. Afin que tu reconnaisses. Je trouve qu'il y a dans notre génération, beaucoup de légèreté à ne fonder nos expériences personnelles ou collectives que sur les événements ou les expériences des autres. Beaucoup d'églises aujourd'hui fondent cela en disant même la connaissance de Christ n'est plus tout à fait nécessaire. Une fois que vous vous êtes converti, eh bien maintenant, entrer dans un monde d'expérience pour pénétrer et vous emparer du royaume de Dieu. C'est l'expérience qui prouve que vous êtes dans la vérité. Que nenni. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences et, à contrario de ce que disait peut-être Michel, c'est vrai que j'aime bien faire le bilan de l'année qui vient de s'écrouler. Mais de s'écrouler, pas de s'écrouler. Quoique, cette année-là, souvent, vous savez, on entend des questions de journalistes à un artiste ou à une personnalité en disant « Et si vous deviez recommencer, est-ce que vous recommenceriez de la même manière ?» Et souvent, la réponse, c'est « Ah ben non, ah non, je recommencerai, je ferai la même chose. » Et moi, si on me pose la question, je dirais « Mais ah ben non, je ferai différemment. Si j'ai conscience des erreurs que j'ai faites, je ferai différemment. Je ne vais pas faire les mêmes choses, je peux vous assurer. J'ai une capacité à me tromper et à persévérer dans mes erreurs. Ah, dans plein de choses. Quand je me perds, je suis un spécialiste, je me perds facilement, je persévère. Je dis souvent, j'ai fait un voyage pour aller à une convention chrétienne de Normandie à Bruxelles, ça m'a pris 23 heures. Là, il y a Christophe qui dit, quand même, Normandie-Bruxelles, 23 heures. Oui, parce que je suis arrivé à Bruxelles environ en 6h30, 7h, et après, j'ai persévéré dans mon erreur en tournant dans la ville de Bruxelles. Ouais. Nous sommes parfois dans cette position, cette attitude. Ici, il est parlé par Luc à Théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est-à-dire que les enseignements que tu as reçus, étaye-les, fortifie-les par la lecture de la bonne nouvelle et de la parole de Dieu. Alors Théophile, on ne sait pas qui il est. Mais le hasard, si nous croyons au hasard, fait que Théophile, cela signifie en grec « ami de Dieu ». Et moi, je ne crois pas au hasard. En fait, cet évangile de Luc, il est adressé à un homme qui s'appelle Théophile, mais il est adressé également à tous ceux qui souhaitent devenir amis de Dieu. Qui veut devenir ami de Dieu ? Ouais ! Deux ! Il y en a trois, quatre, cinq, six, ça va ! Je vois que vous avez compris le principe. Ouais. Tous ceux qui veulent devenir amis de Dieu. Toi et moi. Ouais. Il n'y a pas de lien possible d'amitié avec Dieu sans la connaissance et avoir l'enseignement exact concernant Jésus-Christ. Il y a une application très célèbre que vous connaissez tous, à laquelle pendant des décennies j'ai refusé de souscrire. Et cette application, que je ne citerai pas, dit « Est-ce que tu veux devenir ami avec moi ?» Vous la connaissez, cette application? Facebook, voilà, Facebook. Hein. Moi, j'ai refusé, je me dis « Mais je ne veux pas devenir ami avec des personnes que je ne connais pas. » Oui, mais si tu es l'ami de l'ami d'un ami d'une amie, alors je voudrais être ami avec toi. Bah oui, mais je ne te connais pas, donc je ne veux pas être ami. » Là, ici, il est question de devenir ami avec Dieu. Il y a une volonté, un désir de Dieu que nous entretenions, que nous découvrions une relation de proximité et d'amitié. Comment est-ce qu'on peut imaginer cela ? Combien avez-vous d'amis dans la vie ? De vrais amis ? Ça se compte sur les doigts d'une main ? Ouais, on dit oui, mais si on est dans l'église, il y a 50 membres, on a 50 amis. Non, même dans l'église, on a des relations fraternelles, mais des personnes avec lesquelles on peut partager. Vous savez ce que c'est qu'un ami ? Dans une pièce de théâtre, il dit, un ami, c'est quelqu'un auquel tu téléphones en pleine nuit en disant, je viens de tuer ma femme, et l'autre, au bout du fil, dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est du théâtre, hein ? Mais un ami, c'est quelqu'un avec lequel on peut être vraiment tel que nous sommes, sans porter de filtre ni de masque. Ça, c'est un ami. Il n'y en a pas tant que ça. Réfléchissez dans votre vie. On a des relations d'amitié, fraternité, oui, mais des amis. Quand je suis arrivé en Bretagne et que Francine m'a rejoint, à un moment donné, on s'est trouvé abandonné. On a été expulsé de l'église où on était. Il s'est trouvé un seul couple pendant 4 ans qui s'est tenu à nos côtés. Un seul couple. On était tout seuls ici, eux, ils étaient en Normandie. Ce qu'on avait fait, les raisons pour lesquelles on avait été renvoyés de l'église ou ceci ou cela, ça leur importait peu. Nous étions leurs amis, ils sont restés à nos côtés. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Tel que je suis, il me reçoit, il m'accepte. Alors devenir ami de Dieu. À tous les théophiles que nous sommes, ceux qui veulent devenir amis de Dieu, comment avoir la certitude, comme dit l'évangéliste, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus? Comment devenir certain? C'est le fameux verset de l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». C'est une certitude. Eh bien, cette certitude qui s'ancre en nous, elle ne peut dépendre que de la parole que nous recevons. Celle qui nous dit « Voilà ce que je suis pour toi, là où tu es ». Même quand tu te paumes, même quand tu es largué, même quand tu es dans l'erreur, Dieu me dit « Je t'accepte tel que tu es, là où tu es. » Est-ce que nous voulons rentrer dans cette certitude avec cet ami qui se tient et qui veut se tenir à nos côtés? Avoir la certitude des enseignements reçus. Comment rentrer dans une démarche de foi qui devienne certitude, sinon en nous ancrant dans la parole qui nous est transmise? Non pas les expériences que d'autres nous disent qu'ils ont faites et qui apportaient tel ou tel fruit. Merveilleux pour vous! J'en suis heureux pour vous! J'ai souvent que dans une réunion pastorale, tous les pasteurs étaient d'avis d'aller à Toronto pour aller voir le réveil qu'il y avait là-bas. Quand nous irons là-bas, nous recevrons les mêmes choses, nous vivrons les mêmes... Je suis très heureux, leur ai-je dit, que ceux de Toronto vivent cela. Je suis heureux pour eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la bénédiction de Toronto. C'est la bénédiction de Kevin. Avoir cette certitude des choses que Dieu a prévues pour moi, parce que son amitié, son amour, j'en suis l'objet. Alors, Luc souligne que ceux qui ont été des témoins oculaires ont transmis ce qu'ils ont vu et sont devenus serviteurs de la parole. Et puis, j'ai tout réorganisé mon bureau, donc j'ai plus qu'à tendre la main pour saisir le texte grec, hébreu, la Bible catholique de Jérusalem, la Tob. Et puis j'ai découvert que dans une Bible anglaise, il y avait à ce verset où il est parlé des témoins oculaires qui sont devenus serviteurs de la parole, ça a été traduit, des témoins oculaires qui sont devenus ministre de la parole. Et vous savez quoi? Moi, je préfère quand même cette traduction, ministre de la parole. Il y a une de mes petits-enfants qui était là au culte dimanche dernier, qui a vu mon pins qui est là. C'est un pins où il y a la Bible, la colombe pour le Saint-Esprit, la croix. Voilà. C'est un des hommes de Dieu qui a été pour moi un père dans la foi qui... Il me l'a vendu. C'est un père qui était un petit peu près. Non, c'était pour la mission. Donc, c'était le pins de l'église apostolique. Et ma petite fille est venue vers moi dimanche. Elle a regardé, elle a dit, c'est parce que t'es pasteur que t'as un pins comme ça, les autres en ont pas. Et ouais, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Hein. Alors, je lui dis, non. Puis, j'ai pas eu la tentation de lui dire, c'est parce que je suis ministre du culte. Et pourtant, dans la traduction, certains ont remplacé par le mot serviteur par ministre. En fait, le mot qui est utilisé, c'est hupérétès. Hupérétès. Alors je me suis dit, comment ils sont arrivés à mettre ça? Et en fait, j'ai eu un long téléphone avec un frère qui me posait des questions et qui s'étonnait du positionnement dans l'église de la gouvernance, comment l'église se construit. Oh là là! C'est bien d'être ministre. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne l'êtes pas. Mais quand on est ministre, quand on a le portefeuille, le pins qui va avec, on se dit ouais. Non, mais être serviteur. En fait, le mot, c'est les témoins oculaires qui sont devenus serviteurs de la parole. Et quand vous cherchez la traduction de Peretès en grec, ça parle de serviteur, de rang inférieur, d'un rang de subordonné, d'un subalterne. Et puis même une traduction que j'ai trouvée, c'est ceux qui servent avec les mains. C'est-à-dire qui utilisent leurs mains pour servir. Waouh. Bon, ben moi je vais rester serviteur. Je vais rester ministre, hein, vous savez, parce que ça, non, cette définition-là, ça me... Si, si, c'est cela dont il est parlé. Devenir serviteurs les uns des autres. Est-ce que nous sommes, lorsque nous sommes des témoins oculaires de la résurrection de Christ, alors oculaires avec les yeux de la foi, parce que nous ne vivions pas à l'époque où Christ était sur la terre, mais nous sommes donc bien des témoins qui sommes appelés ensuite à devenir serviteurs de la parole. Pas ministres, pas être au haut de l'échelle, au-dessus des autres, mais de servir l'autre, mon frère, ma sœur, celui qui est étranger à Christ, avec les mains, c'est-à-dire de lui laver les pieds, d'être dans sa vie celui qui intervient, de se considérer comme d'un rang inférieur pour l'élever. Est-ce que nous sommes prêts à être dans cette dimension? Vous voyez comment l'introduction de l'évangile de Luc pose des principes spirituels qui nous concernent aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons devenir? Est-ce que nous voulons devenir aussi, nous, de ceux qui sommes témoins des choses qui se sont accomplies en Jésus-Christ, de l'incarnation du Christ, et qui devenons des serviteurs de la parole? Alors, il y a dans le Nouveau Testament, ça j'ai trouvé ça dans le Bailli, mon dictionnaire, un gros dictionnaire grec qui n'est pas du tout chrétien, hein, mais le Bailli, quand il parle du Peretès, il dit c'est serviteur, oui, c'est subordonné, celui qui sert, mais c'est aussi dans le Nouveau Testament, et là j'étais étonné, je dis tiens, parce que j'ai pas vu la traduction française dans ma Nouveau Testament, mais pour le Bailli, ils disent dans le Nouveau Testament, c'est les huissiers. Du Peretès. Attends. Moi, je ne suis pas un huissier. Mais en fait, l'huissier, dans le terme grec, c'est celui qui atteste que ce qui est là est conforme à la loi ou pas. Le serviteur dit, voilà ce qui est conforme à la réglementation, à la loi. C'est moi qui étais d'une famille bon, assez très, très modeste. J'ai beaucoup fréquenté les huissiers dans ma jeunesse. Ils entraient chez nous, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient. Et c'est drôle, quand ils repartaient, il restait moins de choses chez nous que quand ils étaient arrivés. Mais ils disaient, c'est la loi, voilà, donc on prend. Alors je me dis, mais non, nous, on n'est pas des huissiers. Oui, on est là pour attester que la loi nouvelle en Jésus-Christ, c'est cela. Voilà où sont les limites. Voilà ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, bon... C'est vrai que quand on a loué notre premier local à Kevin, la propriétaire a dit « Comment est-ce que je dois vous appeler, M. Wangto, mon révérend ?» J'ai failli dire oui. Et puis, Michel était là, alors je n'ai pas osé. Puis après, je me suis dit « J'ai rentré à la maison, ma femme ne m'a pas apprécié. » Mais si elle m'avait dit « Est-ce que je peux vous appeler mon huissier ?» J'ai dit « Bah non, pas vraiment. » Mais est-ce que nous ne sommes pas les garants de ce qui est juste au niveau spirituel ? Dans ce sens-là, serviteur de la loi spirituelle qui règne dans le royaume de Dieu. Mais nous ne connaissons cette loi spirituelle qu'en nous fondant sur l'Écriture, non pas sur ce que nous disent les autres par leur expérience. Alors, lorsqu'on regarde le récit qui est fait ensuite de la naissance de Jean-Baptiste, il est dit dans le chapitre 1 que Zacharie, qui était de la classe d'Abia, un sacrificateur avec sa femme Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. On est dans l'évangile de Luc, ça vous rappelle pas quelque chose dans un autre passage, cette histoire-là? Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Toute la multitude du peuple était alors en prière à l'heure prévue pour ça, pour le parfum. Alors il lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel. Zacharie est troublé. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Le contexte est la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste ou de Jean. Commence par la présentation de ses parents. L'ange annonce sa naissance à Zacharie et lui donne un rôle précis. Il sera pour plusieurs un sujet de joie et d'allégresse. Vous pouvez développer la notion de de l'appel divin qui se manifeste même dans les situations les plus désespérées. Et ça, la stérilité d'Élisabeth, ça vous renvoie pas à quelque chose d'autre? Moi, lorsque je lis ce récit-là, je le mets tout de suite en rapport avec le récit d'Abraham et de Sarah. L'ancienne alliance s'appuie sur la situation d'une femme et d'un homme, et Michel l'a cité tout à l'heure en introduction, une situation qui semble achevée, fini, déterminé, vous resterez ainsi. Et puis, un ange est envoyé. Et cet ange-là, aussi bien du côté de... dans Genèse 18, il y a trois visiteurs. Alors on dit que c'est une présentation, une interpellation du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais dans Genèse 18, il est dit qu'un des visiteurs déclara « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham. Elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc « Maintenant je suis usée, mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. » Entre ces deux récits, on a un parallèle qui souligne le passage d'une alliance à l'autre, de l'alliance d'Abraham à la nouvelle alliance en Christ. L'alliance d'Abraham, c'est la préfiguration de la nouvelle alliance qui va venir. Et dans cette alliance avec Abraham, il y a les mêmes éléments. Le doute, l'incertitude, mais la réalité que le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de l'un comme de l'autre, d'une famille comme de l'autre. Le plan de salut de Dieu est un plan de salut qui ne prend pas en compte les limites que nous reconnaissons et voyons. Sarah va rire dans son coin, mais la personne, l'ange, l'envoyé de Dieu dira « Quand je reviendrai l'année prochaine, tu attendras un enfant. » Et je dirais que dans cette introduction de l'évangile de Luc, la nouvelle alliance s'appuie sur les mêmes événements. Un sacrificateur de la classe d'Abia. Vous savez que la classe d'Abia, dans le livre des chroniques, c'est une des 24 classes de sacrificateurs qui sont chargées du service du temple. Les 24 classes de sacerdoce étaient en service 7 jours et se remplaçaient de sabbat en sabbat selon l'ordre séquentiel de chaque classe. Ça veut dire que chaque classe était à travailler, en tout cas en charge du service dans le temple de manière active, deux fois par an, à peu près. Certains sont amusés, puisqu'on connaît dans deux chroniques 24 les classes qui sont en question. Et puis on se dit, si on connaissait la date, on saurait à quelle date Jean-Baptiste est né. Et à peu près celle où Jésus est né. Mais bon, on ne va pas s'amuser à ça. Mais tous les 6 ans, soit la 7e année, les classes retrouvaient les mêmes positions et recommençaient un cycle. Ça veut dire que quelque part, la naissance de Jean-Baptiste, qui introduit l'incarnation et l'accueil de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui est organisé. C'est quelque chose qui est prévu. L'histoire de Noël n'est pas comme nous la transmettons bien souvent aujourd'hui, la récit d'une nuit de Noël où tout à coup il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est planifié par Dieu, c'est construit. Lorsque David organise les 24 classes de serviteurs, de sacrificateurs qui vont faire le service dans le temple, la huitième, la classe d'Abia, elle est installée pour qu'un jour, Zacharie rentre dans le temple et soit interpellé par l'ange Gabriel. L'histoire du salut, le plan de salut de Dieu, c'est véritablement un plan organisé. Il a tout prévu des siècles auparavant. Sarah aura un fils. Élisabeth aura un fils. Et Zacharie, qui est en train de discuter avec l'ange, entend la promesse qui sera faite parce que il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, chapitre 1, verset 15, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Une citation qui est celle tirée du livre de Malachie. C'est pas un hasard. La première alliance avec Abraham ouvre la porte à la naissance d'Israël et à la relation d'Israël vis-à-vis de son Dieu avec un culte très structuré, très lourd à porter, mais afin qu'Israël soit un témoin de Dieu au milieu des nations. Et puis Israël n'arrivera pas à assumer son rôle. Mais Israël est appelé à attendre celui qui va venir, le Messie, celui qui est loin de l'Éternel. Malachie est le dernier prophète d'Israël à parler au nom de Dieu, avant Jean-Baptiste. Entre Malachie et Jean-Baptiste, c'est un désert de 400 ans. 400 ans de silence, 400 ans où Dieu ne parle plus. Je reprends ma phrase. 400 ans où l'homme n'entend plus Dieu. Vous imaginez ? 400 ans où Israël continue ses sacrifices, l'observance de la loi, mais où l'homme n'entend plus la voix de Dieu, jusqu'à ce que Jean-Baptiste intervienne et qu'il soit rempli de l'Esprit Saint et qu'il ramène beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean va être un précurseur du Christ. Il est l'annonciateur de la venue du Messie. L'ange dit à Zacharie qu'il préparera le chemin. Oui. L'idée de préparer les cœurs et les esprits des jeunes gens pour recevoir Jésus est un point central de l'Évangile. Et je veux dire, là où il y avait l'ancienne alliance, il introduit la nouvelle alliance. Et nous sommes, nous, à la fois des images de Christ, mais certainement aussi sur cette terre, des représentations de Jean-Baptiste qui annonce la venue du Christ. Alors quand Jean-Baptiste annonçait la venue de celui qui allait intervenir, mourir sur la croix, nous sommes là pour, tel des Jean-Baptiste, pouvoir aussi annoncer le retour de Jésus-Christ. Sa seconde venue. Est-ce que c'est cela notre mission ? Est-ce que nous avons à ce point l'Esprit-Saint en nous que notre mission sur cette terre, c'est de juger qu'il est impératif d'annoncer et le Christ dans sa première venue et le Christ dans sa venue seconde. Il revient bientôt. Le ministère de Jean-Baptiste, au chapitre 3, verset 1, ça va être de dire qu'il est là pour... du chapitre 3, verset 1 à 20, pour... donner le baptême de la repentance. La proclamation de Jean-Baptiste, c'est « repentez-vous ». Jean prêchait un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et ce message est une invitation à la purification et un changement radical de vie. Je suis désolé de voir que dans notre conception chrétienne aujourd'hui, y compris, je dirais, dans les églises évangéliques, qui devraient être porteuses de cette notion de repentance, une fois qu'on est converti, c'est bon. On attend le retour du Seigneur. Non ! La repentance, même s'il y a cette repentance première qui dit « j'ai conscience du péché qui est dans ma vie et j'ai besoin de ton pardon pour vivre de nouveau avec toi, Seigneur », elle suppose que nous soyons prêts à nous repentir de tout ce que nous vivons et là où le Seigneur, l'Esprit Saint, met son doigt en disant « ce que tu es, ce que tu vis n'est pas juste ». J'entends de plus en plus dans le monde chrétien et dans les églises évangéliques « repentis une fois, le royaume de Dieu est à nous ». Non, je suis toujours un homme avec ses fragilités, avec sa capacité à s'égarer. Et donc, ce que nous avons à prêcher, c'est la capacité que nous avons à développer de nous repentir, de nous convertir. Et croyez-moi, pas d'une seule et unique conversion, mais de revenir à Dieu toujours et sans cesse. Ce qui nous rend stériles, ce qui nous met en difficulté, c'est notre incapacité à nous convertir. Et quand Jésus disait ça aux pharisiens, croyez-moi, il pourrait le dire dans ma vie, parce qu'il me faut du temps avant d'accepter de me convertir, de me repentir et de me convertir. Or, c'est ce que l'Esprit Saint veut accomplir comme miracle dans notre vie, afin que nous puissions avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Souvent, derrière le mot victoire, on y met des victoires sur l'adversaire, sur les choses extérieures. Non ! Les plus grandes victoires que nous pouvons remporter, c'est sur nous-mêmes, sur notre nature, sur ce qui nous écarte de la pensée de Dieu, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles, dans notre manière de voir le monde qui est devant nous. Le baptême de repentance était, au chapitre 3, la mission, le ministère de Jean-Baptiste. Et j'ai envie de dire que ce ministère ou ce service-là de la repentance, c'est ce que nous avons apporté dans ce monde. L'appel à l'humilité était aussi dans le ministère de Jean-Baptiste quelque chose qui était très présent. Il y avait la nécessité chez lui, et c'est ce qu'a dit l'ange en parlant à Zacharie. Voici celui qui va naître de toi, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Mais quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, au serviteur. On voudrait bien ramener beaucoup d'hommes et de femmes, notre propre famille, les amener à la connaissance de Christ ou les conduire vers le Seigneur. Mais est-ce que nous avons l'humilité dans notre manière de vivre pour considérer que ce n'est pas nous qui allons le faire ? C'est l'Esprit Saint, c'est Dieu. Mais il nous utilisera. J'ai un ami pasteur en Corse qui m'a appelé cette semaine et qui a été victime d'un AVC. Il a tout le côté gauche paralysé. Et puis... il m'a appelé, c'était le 25 ou le 26, et puis il était là et puis il me disait, je sais Jean-Marc, prie pour moi parce que j'ai besoin d'être encouragé. Alors on a partagé ensemble, puis à la fin de notre échange, il me disait, oh, tu sais, je suis en ce moment en rééducation à l'hôpital, on m'a juste laissé sortir pour la fête de Noël, puis j'y retourne. Mais grâce à Dieu, il y a des améliorations, voilà, je récupère, mais vraiment, c'est vraiment Dieu qui accomplit tout ça. Puis j'ai dit non, il n'y a pas que Dieu, il y a toi aussi. Alors bien sûr, les êtres supraspirituels diront, mais non, il n'y a que Dieu qui agit. Ben, tiens, qui c'est qui est dans la piscine en train de faire les exercices? Qui est-ce qui est sur le vélo en train de pédaler? Qui est-ce qui est, etc., etc. C'est toi. L'œuvre de Dieu s'accomplit dans la mesure où tu mets ta volonté au service des plans de Dieu. Ça, c'est spirituel. Croire que Dieu fera tout le boulot, je vous assure. Si ma femme dit « tu prépares le repas » et je lui dis « oui, il n'y a pas de souci, Dieu va le faire », je suis sûr qu'elle va descendre à midi et demi à mon bureau et me dire « dis donc, ce n'est pas en route, mais le Seigneur n'a rien fait ». Non. Ah, non, non. Le Seigneur nous utilise là aussi dans ce service vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes serviteurs de la volonté de Dieu dans notre vie? C'est une vraie question. Est-ce que je suis au service de la volonté de Dieu dans mon existence? Il s'agit d'humilité, mais pas de fausse humilité. Pensez que c'est de l'humilité que dire « Dieu va tout faire ». Non. C'est de l'orgueil et c'est surtout une pensée totalement erronée. Je suis au service de mon Seigneur, y compris en ce qui me concerne. Jean-Baptiste annonce un plus grand que lui. Jean déclare que celui qui vient après lui est plus puissant que lui. Luc 3, 16. Là aussi, c'est un service dans lequel nous avons à rentrer. Est-ce que nous nous glorifions de ce que nous sommes au regard du monde pour dire « voyez comment vous pouvez devenir » ou bien est-ce que je peux dire « je vous annonce quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que je suis » et cette déclaration qui est une démonstration de l'humilité de Jean, eh bien, c'est certainement aussi quelque chose que le monde souhaite voir dans les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Il y a une distinction entre Jean et Jésus. Jean souligne qu'il n'est qu'un serviteur et que le vrai Messie apportera quelque chose de bien plus grand que son propre ministère de baptême. Je vous assure, ne me regardez pas ou ne regardez pas Francine ou Michel ou que sais-je. Ne regardez pas les fameux passeurs. On est allé à Mulhouse, plus grande église de France, je crois, pratiquement, évangélique. J'ai serré la main du pasteur de Mulhouse. Oh, je ne me suis pas lavé la main droite depuis... Non, ce n'est pas vrai. Mais je suis très curieux de voir comment certains regardent les serviteurs sur Internet ou dans certaines églises en disant « Non, non, non. » Vous savez, le pasteur de Mulhouse, il a une tête, deux bras, deux jambes, un cœur... une intelligence, une âme, il est simplement un serviteur qui s'est mis au service. Et c'est beau à voir. Mais est-ce que je peux faire la distinction entre ce qu'il est et ce que Jésus est? Parce que ce qui peut vous faire du bien dans votre vie, ce n'est pas le serviteur, c'est son maître. Jean a été mis en prison, on voit au chapitre 7 de l'évangile de Luc, et il a exprimé ses doutes. Il a dit, même s'il était un prophète audacieux, certain de sa mission, c'est celui qui parlait pour la première fois depuis 400 ans à Israël et qui ramenait des foules à la conversion, à la repentance. 400 ans de silence, il porte la parole et il a des doutes. Alors si lui a des doutes... qui sera ferme et sûr de lui? Mais lorsqu'il a eu ses doutes, ça concernait l'identité de Jésus. Et Jésus répond à ses disciples en citant les signes de son ministère, montrant que l'œuvre de Jésus est bien celle qui devait accompagner le Messie. On a le droit d'avoir des doutes. Et je dirais même, je suis très sceptique pour ceux qui disent « Moi, ma foi, elle est inébranlable, j'ai aucun doute. » Bon, moi, des doutes, j'en ai régulièrement sur ma manière d'être, de faire, de vivre l'Église. J'ai eu une très belle conversation avec mon fils qui m'exprimait « C'est quoi? Comment vivre l'Église ?» Et quand il disait ça, je n'étais pas choqué par les doutes qu'il pouvait avoir. Je trouve qu'avoir des doutes, c'est la manière dont l'Esprit Saint commence à titiller ce qui est installé en nous et dire, est-ce que tu es prêt à remettre en question, à réfléchir là-dessus, à me laisser par ma parole, je ne dis pas par les expériences, l'éclairage des expériences, ça peut être intéressant, mais se laisser éclairer par la parole sur des choses qu'on a posées en nous et qui semblent inébranlables. C'est comme ça. Moi, je me méfie des certitudes, hein, des gens sûrs sur tout. Non, comment les doutes sont les premières étapes où l'Esprit Saint peut commencer à travailler avec nous, à nous remettre en cause. Et Jésus a rendu hommage à Jean en soulignant son rôle dans l'histoire du salut et sa fidélité à la mission que Dieu lui avait donnée. J'aimerais juste terminer là-dessus. Il y aurait plein de choses à dire sur le ministère de Jean-Baptiste, mais est-ce que Jésus rendra hommage à ma fidélité? Est-ce qu'il rendra hommage à mon humilité, à ne pas m'être mis devant lui, mais derrière lui? Est-ce qu'il rendra hommage à l'expression de ma foi pour amener l'autre à rencontrer le Christ, à vivre la repentance, à vivre la guérison de l'âme, à vivre du changement dans sa vie? Voilà, c'est cela le message de Noël. Jean-Baptiste a rendu possible l'ouverture de cette nouvelle alliance. Et nous en sommes, vous et moi, les dépositaires. Seigneur, ta parole se suffit à elle-même. Est-ce que je veux devenir ton ami, un théophile? Je sais que ma réponse peut venir rapidement et dire oui, bien sûr. Mais est-ce que je veux le devenir avec tout cela qu'on porte, en étant capable d'être malléable, facile à me repentir et à me convertir? Est-ce que je peux être assez humble pour te laisser, toi, être l'objet de mes paroles pour l'autre, à ne pas me mettre en avant, à ne pas me glorifier, ou à me glorifier de mes expériences? J'ai besoin véritablement de grandir en cela. Est-ce que je peux être un Jean-Baptiste? Je le désire. Mais comme le dit ta parole, viens au secours de mon incrédulité, de ce qui m'empêche de le devenir. Ce matin, Seigneur, ce n'est que le dernier culte de cette année 2024. Mais tu es en dehors du temps et les choses continueront demain, les semaines, les mois, les années qui viennent. Alors Seigneur, je te demande simplement par ton Esprit Saint de me garder dans ta fidélité. Amen.